La compagnie des auteurs, elle se met en marche, menée par son indispensable équipage, Anne-Vanessa Prévost, Corinne Amard, Didier Pinot, Eva Le Saux, à la réalisation, Laurence Millet à la console, Élise Leu.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, aujourd'hui mardi, deuxième jour d'une série en trois épisodes consacrée à l'écrivaine anglaise Doris Lessing. Doris Lessing, dont nous avons commencé hier à dessiner le portrait grâce à deux de ses grandes lectrices, Geneviève Brisac et Josiane Savigno, qui nous ont raconté l'importance que la lauréate du prix Nobel 2007 avait eue pour elle sur le plan personnel comme sur celui de l'écriture, sur elle et plus généralement sur toute une génération de femmes dans leur rapport à l'engagement et notamment au communisme. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast. Demain, je recevrai Anne-Laure Brevet qui a rédigé une longue préface au livre Le Carnet d'Or et autres romans parus à la Pochothèque en 2011. Avec elle, nous parlerons du Carnet d'Or, bien sûr, mais aussi d'autres livres moins célèbres comme Journal d'une voisine, où il est question de la vieillesse, ou La terroriste, dans lequel un attentat est perpétré par une jeune femme bien sous tout rapport et au comportement maternel. Enfin jeudi, une émission spéciale. Nous avons demandé à Jean-Michel Delaconté de choisir des textes écrivains qui l'ont marqué durant sa vie et de nous les lire pour nous en parler. Il a accepté de se prêter à l'exercice. Et aujourd'hui ?
Ain't gonna let nobody turn around, turn around, turn around. Ain't gonna let nobody turn around. I'm walking down that freedom, talking down that freedom, walking down that freedom road.
Aujourd'hui, nous parlons de la question de l'autobiographie chez Doris Lessing. Mon invitée est Catherine Bernard. Elle a beaucoup écrit sur Virginia Woolf, sur la fiction anglaise contemporaine aussi. Et elle est l'auteur d'un article sur les deux livres autobiographiques de Lessing, Dans ma peau et La marche dans l'ombre. Mais avant de parler de ces deux ouvrages-là, commençons par l'irruption de la biographie dans la fiction chez l'auteur du Carnet d'Or, avec un extrait de ce livre lu par Nathalie Nerval.
Je me rappelle très précisément le moment où ce roman est né. Mon pouls battait violemment. Après, lorsque je compris que j'écrirais, je mis au point ce que j'allais écrire. Le sujet était presque immatériel. Et voilà justement ce qui m'intéresse maintenant. Pourquoi n'ai-je pas écrit un compte-rendu de ce qui était arrivé, au lieu d'inventer une histoire qui n'avait rien à voir avec la matière qui l'avait alimentée? Bien sûr, le compte-rendu direct, simple et non structuré n'aurait pas constitué un roman et n'aurait pas été publié. Mais je ne m'intéressais sincèrement pas à être écrivain ou à gagner de l'argent. Je ne parle pas de ce jeu que les écrivains se jouent à eux-mêmes lorsqu'ils écrivent, ce jeu psychologique, tel incident écrit provenait de tel incident réel, en était le jumeau psychologique. Je me demande simplement ceci. Pourquoi une histoire? Non que ce fût une mauvaise histoire, ni qu'elle fût irréelle ou trompeuse, mais pourquoi pas simplement la vérité?
C'est vrai ça, pourquoi une histoire? Pourquoi ne pas simplement écrire la vérité? C'est ce que fait dire Doris Lessing à son personnage Dana dans cet extrait du Carnet d'Or. Bonjour Catherine Bernard.
Bonjour.
Alors je vous pose cette question, pourquoi une histoire? Pourquoi ne pas écrire simplement la vérité?
Mais ça, c'est une question qui vaut pour la plupart des biographies littéraires, pour la plupart des biographies d'auteurs. Surtout pour une biographie comme celle-ci, qui en fait est une biographie incomplète, on y reviendra peut-être, puisque théoriquement, elle devait comporter 3 volumes, elle n'en comporte que 2. Pourquoi l'éruption du biographique dans la fiction et la fiction dans le biographique aussi ? Précisément, sans doute, parce que Lessing a toute sa carrière eu ce souci de trouver la bonne forme narrative, la bonne forme de l'intrigue, la bonne intrigue, la bonne mise en ordre, on va dire, des éléments empruntés à la réalité, à sa réalité, pour imprimer un sens à un monde et à une expérience qui était la sienne, qu'elle a sans doute toujours trouvée jusqu'au bout relativement incohérente. C'est quelqu'un qui aborde l'histoire sous un angle relativement dystopique, quasiment, pour qui l'histoire est privée de sens. Très souvent même, elle va assez loin, en particulier dans ses romans de science-fiction, presque anomiques. Le roman, la fiction, est pour elle une façon de simplement donner du sens, ce qui n'a rien d'original au demeurant.
Donc la narration redonne du sens à une vie qui n'en a pas. Et c'est pour cette raison que Doris Lessing injecte partout, dans la fiction comme dans l'autobiographie en propre, sa propre vie.
Tout à fait. Hier, je crois, Geneviève Brisac disait que c'était une conteuse, nous rappelait que c'était avant tout une conteuse d'histoire, et ça l'est aussi dans son autobiographie, c'est-à-dire qu'elle se réimagine, traversant les événements qui sont ceux de son existence, comme une romancière. Là, elle emprunte une forme qui est extrêmement traditionnelle, qui est celle du roman d'apprentissage, celle du roman de l'artiste, du Künstler Roman. Donc les 2 volumes de son autobiographie sont des volumes qui suivent un trajet, une sorte d'avènement de la figure et de la conscience de l'artiste à lui-même, à elle-même, sous une forme relativement traditionnelle au départ, qu'elle va ensuite s'approprier, retravailler, détourner dans une large mesure.
Alors, on va parler plus en détail de ces 2 autobiographies, mais avant cela, j'aimerais revenir sur Le Carnet d'or, qui n'est donc pas une autobiographie à proprement parler, même si Lessing y est très très présente. Et cet extrait qu'on vient d'entendre me semble intéressant, car c'est un personnage d'écrivain qui se demande pourquoi ne pas écrire sa propre vie. Donc il y a une espèce de double niveau comme ça, puisque c'est à l'intérieur de la fiction que le personnage se pose la question que Doris Lessing vraisemblablement se pose, qui est comment écrire sa vie ? Faut-il se contenter de noter les faits les uns après les autres ? Faut-il en faire de la fiction ?
Oui, au demeurant, je pense que la Lessing autobiographe et la Lessing romancière et auteur de nouvelles se regardent en miroir. C'est-à-dire on a 2 figures d'une même créatrice, d'un même auteur, qui vont en fait dialoguer de manière indirecte par le biais de la fiction et par le biais de l'autobiographie. Et certes, le Carnet d'or est un texte pour partie autobiographique, et peut-être l'est-il avant tout dans sa forme, plus que dans son contenu, c'est-à-dire le caractère fragmenté, les récits enchassés, les carnets enchassés.
Presque cubiste, c'est ça qu'on a parlé
pour
Le Carnet d'or.
C'est une métaphore intéressante, parce qu'il faut se souvenir qu'elle naît en 19, que c'est finalement une enfant du modernisme, une fille du modernisme. En un sens, on la voit comme c'est ce qu'elle est, un écrivain extrêmement moderne, mais on peut aussi la lire comme un écrivain moderniste ou une forme de moderniste tardive, en quelque sorte. Et effectivement, une forme cubiste enchâssée, et qui va en fait qui va offrir des perspectives, des angles de vue différenciés sur une même expérience, sur un même personnage, qui est Lessing.
Donc si elle avait eu peut-être à se peindre, elle se serait peinte comme Picasso dans sa période cubiste, c'est-à-dire de manière fragmentée, éclatée, et c'est ce que vous dites, la forme est un autoportrait, la forme du Carnet d'or est un autoportrait, c'est
ça ? Oui, une sorte de dorama, en quelque sorte, de la fiction. Oui, pour moi, c'est une autobiographie fragmentée, mais de toute façon, dans son autobiographie même, elle ne cesse de répéter qu'elle est divisée, qu'elle est elle-même fragmentée. Dans un entretien de 70, elle insiste beaucoup sur le fait qu'elle s'est toujours sentie divisée par le milieu, split down the middle, vraiment divisée de l'intérieur, et c'est cette division division, cette, alors on pourrait dire presque ce clivage, cette schisme, hein, qui va être reproduit par la forme du carnet d'or. C'est évident, avec ses, une fois de plus ces perspectives différenciées.
Alors, il y a le carnet d'or, mais il y a aussi Les Enfants de la violence, cycle de 5 romans qui, peut-être plus encore que le carnet d'or, sont là d'inspiration autobiographique.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est quand on se souvient du nom de l'héroïne, hein, Martha Quest, hein, La Quête. Donc, c'est évident que cette série de romans est une forme de série allégorique, hein, dans laquelle elle va à la fois mettre en récit sa propre expérience, mais surtout sa propre expérience de romancière qui se cherche, qui ne cesse de chercher le bon récit, la bonne forme, la bonne langue, pour parler de l'expérience qu'elle a faite de sa propre existence. Mais aussi, c'est une expérience qui passe tout de suite dans un régime allégorique beaucoup plus générique, en fait, hein, beaucoup plus large, de manière à parler au plus grand nombre, sans doute, pour sortir de la perspective un peu trop, on va dire, personnelle et individuelle et idiosyncrasique, hein, du moi. Lessing est quelqu'un qui ne croit pas trop dans le moi, en fait, ou qui n'y croit que pour autant qu'il est fragmenté et diffracté.
Donc elle cherche dans cette série de romans à s'élever au niveau de l'universel, à parler à tout le monde. Comment est-ce qu'elle fait ça?
Oui, alors elle le fait de manière, on va dire, relativement simple, mais efficace. Efficace parce que simple. En reprenant un certain nombre de recettes, hein, littéraires que ses lecteurs vont pouvoir facilement identifier, parce qu'elle revient à des recettes très anciennes. Hein, celui de la quête, celui, une fois de plus, du récit d'évolution. Du moins, de la formation, voilà, et qui en quelque sorte va permettre à ce récit de se déployer sur un substrat, sur un fond culturel commun qui sera accessible à tous. Et c'est quelqu'un qui, toute sa carrière, va avoir le souci de parler à tous par des formes facilement reconnaissables, la science-fiction ou autre.
Vous écoutez La Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Doris Lessing avec Catherine Bernard. Catherine Bernard, vous vous êtes intéressée, je le disais en introduction, dans un article publié dans le livre collectif L'autobiographie littéraire en Angleterre. Vous vous êtes intéressée donc à ces deux livres autobiographiques de Lessing. Le premier s'appelle Under My Skin, Dans ma peau. Il est paru en 1994. Et le second, c'est Walking in the Shade, La marche dans l'ombre. Et il date de 1998. Commençons peut-être par Dans ma peau. Il est écrit alors qu'elle a 75 ans. Est-ce que c'est significatif de commencer à écrire sa biographie, son autobiographie, pardon, à 75 ans?
Oui, je pense que, en fait, elle a un regard rétroactif sur sa propre existence qui nécessite une très grande distance vis-à-vis d'elle-même. C'est-à-dire qu'on a l'impression, dès ce premier volume...
C'est un peu un roman, oui, en même temps dans la forme.
Oui, le lapsus est révélateur. Dès ce premier volume, on a l'impression qu'elle regarde la petite fille et la jeune fille ensuite qu'elle a été, mais de très loin, en fait. Qu'elle regarde presque avec une perspective d'entomologiste, hein, cette jeune personne s'énerver, se rebeller, etc.
Donc sans se sentir proche, voilà, de la petite fille qu'elle était.
Tout à fait. Alors, elle s'en sent proche nécessairement, hein. Elle se sent proche en particulier des aspirations de cette petite fille, des aspirations à la liberté, de son aspiration aussi à la culture, de la manière dont elle s'approprie sa propre existence par la lecture, très très tôt. Elle insiste énormément là-dessus. Et pas n'importe quel type de lecture. Les lectures qui parviennent de l'Angleterre par caisse entière, elle le dit, hein, par caisse entière des livres qui constituent ce qu'elle va appeler dans son discours du Nobel la grande tradition. Stevenson, Dickens, etc. Mais aussi les Russes. Donc cette grande littérature européenne dans laquelle elle va s'immerger pour se libérer. Et elle regarde cette petite fille, puis cette adolescente, avec une forme, évidemment, une empathie évidente, mais qui est l'empathie de la romancière, de toute façon.
Et donc, on pourrait presque dire qu'il y a une autobiographie par les livres qu'elle a lus, et que ce sont ces grands écrivains, peut-être pas tous grands, mais ces écrivains qui l'ont constitué, et c'est donc aussi ça qu'elle raconte, ces livres qu'elle a lus.
Oui, tout à fait. Alors, c'est drôle dans la mesure où on a construit l'image de Doris Lessing comme celle d'une féministe acharnée, ce qu'elle était en un sens, même si vous en avez parlé hier, c'était une féministe paradoxale quasiment, contradictoire. Mais quand on regarde les écrivains de son panthéon adolescent, ce sont c'est le panthéon universaliste de la littérature européenne. Et on y trouve aussi, par exemple, Kipling, ce qui est très intéressant, puisqu'on sait qu'elle a été quand même élevée dans l'Empire.
Ouais, et que l'Empire, on en parlera dans la seconde partie de cette émission, c'est évidemment très important. Alors, elle évoque son enfance, mais son enfance a l'air heureuse dans ce livre, alors que, on l'a dit hier, son enfance, telle qu'elle l'a racontée ailleurs, n'est pas forcément a priori très heureuse.
Oui, alors elle a une dans son autobiographie, elle a une et dans ses plus tard dans ses entretiens, elle s'en explique très bien. Elle a une relation, on va dire, qui est elle-même clivée en fait à sa propre mémoire enfantine, parce que certes elle reconstruit, on va dire, une enfance qu'on pourrait presque lire comme quasiment pastoraliste en fait, un peu irénique, en lien avec la nature de l'Afrique, la nature de ce qui était à l'époque la Rhodésie, désormais le Zimbabwe, mais donc effectivement un contact quasiment viscéral avec les éléments et la nature africaine, et par ailleurs quand même une enfance et une adolescence qui est marquée par la mélancolie, par le chagrin, une forme de chagrin historique collectif porté par son père en particulier, mutilé de la Première Guerre mondiale, et qui va porter ce fardeau de la mémoire collective inscrit dans son corps démembré. Et pour Lessing, c'est vraiment un traumatisme qu'elle va ériger quasiment en sorte de métaphore, si vous voulez, constitutive quasiment de sa propre mémoire.
Vous diriez donc que c'est aussi un portrait de ses parents qu'elle fait dans ce premier tome?
Oui, dans le premier volume, c'est vraiment un portrait de ses parents, et à travers ses parents, un portrait de l'Empire meurtri, vraiment, c'est-à-dire d'une mémoire collective meurtrie. Et c'est le portrait, d'une écrivaine dès le début qui n'a pas de patrie, qui n'a pas de sol, ou dont le sol est en fait un sol qu'elle s'est arrogé en fait par le biais de ses parents. Donc une mémoire qui est complexe. C'est évident, et malheureuse pour une grande mesure.
Alors, comme on l'a dit, Catherine Bernard, l'autobiographie est un peu partout chez Doris Lessing. Forcément, il doit y avoir des recoupements entre cette autobiographie un peu officielle et puis l'officieuse. Je repense par exemple au Carnet d'or, où elle parle beaucoup d'une jeunesse en Afrique. Est-ce qu'il y a des choses qui se recoupent entre la fiction du Carnet d'or et l'autobiographie?
Oui, peut-être que, à mes yeux, rapproche le plus, on va dire, l'enfance de fiction qu'on trouve dans le Carnet d'or et l'enfance autobiographique, est l'expérience de la désillusion, en fait. L'expérience de la mélancolie et l'expérience de la nostalgie au sens premier du terme, c'est-à-dire le sentiment profond que l'on ne pourra jamais rentrer chez soi. Parce qu'on n'a pas de chez soi, en quelque sorte, et qu'on est toujours déraciné d'entrée de jeu.
Et pourtant, elle va rentrer quelque part, alors on ne sait pas si c'est chez elle, mais elle va rentrer en Angleterre, et c'est là que commence le second tome. Et pourquoi, selon vous, faire la césure à ce moment-là? Bon, il y a une raison qui paraît évidente, c'est qu'il y a un déplacement géographique qui change des choses, mais est-ce que c'est une telle rupture dans la vie de Doris Lessing pour qu'elle décide d'en faire un tome séparé?
Ouais. Moi, je pense que vous mettez le doigt sur quelque chose qui est essentiel, c'est-à-dire c'est un déplacement géographique, c'est un déplacement historique, et en fait, le terme qu'on emploie quand on parle de son arrivée en Angleterre, on dit qu'elle rentre en Angleterre. Elle ne rentre pas en Angleterre.
Elle débarque en Angleterre.
Elle débarque en Angleterre, en fait. Mais le terme est lui-même révélateur, en fait, d'une sorte d'inconscient historique, c'est-à-dire qu'avec cette idée que les colons devaient nécessairement rentrer chez eux et que leur maison, c'était l'Angleterre, en fait. Alors que précisément, elle fait l'expérience inverse, c'est-à-dire qu'elle va se sentir apatride dans ce qui, théoriquement, théoriquement, ou du moins c'est ce que l'histoire veut lui faire croire, ce qui devrait être sa mère patrie.
Mais est-ce qu'il y a continuité de ton entre le tome 1 et le tome 2?
Oui, on retrouve beaucoup de choses similaires. On retrouve en particulier l'insistance qu'elle met à montrer combien son expérience est disloquée et combien, en fait, elle ne cesse de errer d'une personnalité à une autre, quasiment d'un lieu à un autre. C'est une personne un peu déplacée, hein. Elle ne cesse de déménager. C'est affolant, hein, le nombre de déménagements qu'elle a pu faire dans sa vie. Et ces déménagements sont évidemment symptomatiques de sorte d'état d'apatrie, en quelque sorte, qu'elle ressent.
Myself up, dust myself off, and start all over again. Don't lose your confidence if you slip. Be grateful for a pleasant trip, and pick yourself up, dust yourself off, and start all over again.
C'est la compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de l'autobiographie chez Doris Lessing avec Catherine Bernard. Alors Catherine Bernard, ce second tome, La marche dans l'ombre, c'est, on a passé l'enfance, les problèmes et les questions familiales sont derrière nous, et là c'est davantage la question politique qui va intéresser Doris Lessing.
Oui, la question politique, vous en avez parlé hier un peu, hein, c'est-à-dire son lien avec le communisme, qu'elle décrit assez paradoxal, mais caractéristique de son positionnement historique, qu'elle décrit déjà comme en fait d'entrée de jeu décalée. C'est-à-dire, elle confesse qu'elle a rallié le Parti communiste alors qu'elle n'y croyait plus. Que c'était sans doute trop tard, oui. Que le rêve était derrière eux.
Elle est toujours décalée.
Elle est toujours décalée.
Donc elle recherche ce décalage
Mais je pense qu'en fait, elle ne fait que répéter le décalage qui a été le sien dès le début, en fait, dès son enfance en Perse et en Zimbabwe. Hein. Donc elle répète à l'infini ces sortes d'expériences contrariées qui lui permettent, ce faisant, de se confronter à l'histoire. C'est-à-dire, c'est dans ce décalage qu'elle met à l'épreuve sa conscience historique du présent, du monde, en train de s'écrire, en fait. Hein. Donc, elle a la même distance qu'elle conserve vis-à-vis d'elle-même dans le premier volume, hein, on en parlait tout à l'heure. En fait, ça va être cette distance-là qu'elle va répéter à l'envi, réintroduire dans ses différentes expériences historiques, et qui vont lui permettre peut-être d'avoir ce décalage, cette perspective en retrait par rapport à l'histoire qui va lui permettre de lire l'histoire et de la mettre en récit par la suite.
Et est-ce que ça peut être aussi une distance soit désabusée, soit ironique par rapport à ce qu'elle était à cette époque-là?
Oui, je pense. Hein, de toute façon, elle est très ironique à l'égard de la grande histoire, de même qu'elle est très ironique au moment où elle reçoit le prix Nobel. Vous avez passé hier ce court extrait où on lui annonce qu'elle a le prix Nobel et en fait elle dit « Oh Christ, oh, non, oh, pitié, il manquait plus que ça » en d'autres termes. Et en fait, c'est cette relation ironique, distanciée, parfois sarcastique, qu'on peut peut-être définir comme désabusée, qu'elle va conserver à l'égard des événements dans lesquels, pourtant, elle prendra toute sa part, hein, quand elle revient au Zimbabwe en particulier, hein, pour observer ce qu'est devenu le pays de son enfance. Donc, elle va très souvent adopter une forme d'attitude dédoublée vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis de sa propre expérience au monde. Et c'est ce dédoublement qui lui permet d'écrire. C'est dans ce décalage que va se loger, s'immiscer la fiction.
Et pourquoi ?
Mais je pense que ça, c'est une expérience, si vous regardez d'autres écrivains de l'ex-empire britannique, qu'on retrouve très souvent. On va la retrouver chez Naipaul, on la retrouve chez Kipling déjà. Hein, Kipling qui écrit de l'extérieur et de l'intérieur à la fois. Donc ce sont des écrivains qui sont des écrivains de l'intérieur de l'Empire, blancs, hein, pour Lessing. C'est différent pour Naipaul et Kipling, mais qui en même temps écrivent de l'extérieur. Elle aimait se comparer à Olive Schreiner, la grande écrivaine et militante d'Afrique du Sud, ou à Nadine Gordimer, qui elles-mêmes vont faire cette expérience de dédoublement à l'égard de leur propre pays. Mais une fois encore, c'est ce décalage intérieur qui permet en fait d'avoir un regard lucide, selon elle, lucide bizarrement parce que décalé sur le présent.
Alors il n'y a pas de troisième tome, et ça c'est étonnant parce que ça s'arrête à la fin des années 60, et bon, visiblement, alors qu'elle a vécu encore de nombreuses années, elle n'a pas souhaité prolonger cette expérience autobiographique. Pourquoi, selon vous, Catherine Bernard ?
Je crois qu'elle s'en explique plusieurs fois. En fait, elle dit elle-même qu'elle voyait pas bien ce qu'elle pourrait dire de plus. C'était quelqu'un de très franc et de très direct, qui ne mâchait pas ses mots. Et elle ne voyait pas l'intérêt d'écrire juste pour remplir le contrat, en quelque sorte, qu'elle s'était fixé au départ. Elle n'avait plus rien à dire dans ce troisième.
Peut-être qu'elle ne voulait pas choquer non plus des gens qui étaient toujours vivants.
Oui, ça, je suis.
Vous n'y croyez pas.
Ça, c'est ce qu'elle dit. Mais je pense que, par ailleurs, elle dit aussi qu'en fait, elle avait épuisé elle-même comme sujet de sa propre histoire, en fait. Elle était allée au bout de ce qu'elle avait à dire d'elle-même.
En tout cas, elle a poursuivi de manière moins directe cette entreprise de se raconter dans ses livres, et notamment à travers son livre Le rêve le plus doux, dont je vous propose d'écouter un extrait.
Julie Hackett était toujours restée aussi dévouée à The Defender. À la maison, elle portait des tabliers The Defender. Elle buvait dans des tasses The Defender. Elle utilisait des torchons The Defender. Elle était susceptible de pleurer de rage si l'on critiquait son journal. Julie savait que Frances n'était pas aussi engagée, mot qu'elle affectionnait particulièrement. Frances la trouvait infiniment assommante. Après tout, Frances s'était enthousiasmée pour la rhétorique verbeuse de Johnny, avait perdu la tête sous le charme du grand rêve, et son existence depuis avait été réglée par celui-ci. Elle n'avait tout simplement pas pu s'en libérer. Et voilà qu'elle collaborait avec une femme pour qui The Defender jouait le même rôle que le parti avait joué pour Johnny. D'aucuns en sont venus à penser que notre plus grand besoin, celui de l'être humain, c'est d'avoir quelque chose ou quelqu'un à haïr. Pendant des décennies, les couches supérieures de la société, les classes dominantes, avaient rempli cette fonction. Mais ce credo montrait maintenant des signes d'usure. Le nouvel ennemi, les hommes, était encore plus utile puisqu'il englobait la moitié de l'humanité. D'un bout du monde à l'autre, le deuxième sexe jugeait les hommes. Et quand Frances se trouvait avec les femmes de The Defender, elle se sentait partie intégrante d'un jury exclusivement féminin qui viendrait de rendre un verdict coupable à l'unanimité. Jamais il n'y avait eu juge plus suffisant, plus pharisien, plus dépourvu de sens critique envers les hommes qui leur sautaient dessus comme des chats sur des moineaux. Mais somme toute, ce n'était qu'un stade dans cette explosion du mouvement féministe. Le début du nouveau féminisme des années 60 ressemblait rien tant qu'à une petite fille à un goûter, folle d'excitation, les joues cramoisies, les yeux vitreux, en train de gambader en hurlant « J'ai pas de culotte, on peut voir mon derrière ». 3 ans. Et les adultes feignent de ne rien remarquer. Cela lui passera en grandissant. Et c'était vrai.
Le rêve le plus doux, lu par Florence Pernel. Et là, c'est presque une autobiographie intellectuelle. En l'occurrence, on a l'impression d'entendre Doris Lessing dans son rapport au féminisme qu'on a déjà commencé d'évoquer hier et au politiquement correct aussi. Donc voilà, il y a cette continuation par d'autres moyens de l'autobiographie, Catherine Bernard.
Oui, continuation par d'autres moyens et en particulier par le moyen de la satire et l'humour, qui est un aspect de l'œuvre de Lessing sur lequel on insiste peu, alors que ce qu'on a entendu à l'instant est extrêmement drôle, et très grinçant, d'un humour noir et grinçant, extrêmement sarcastique, extrêmement ironique vis-à-vis des tabous, des vaches sacrées, des icônes, de la bien-pensance, effectivement, dont elle prend ses distances, avec laquelle elle prend ses distances très très vite. Et c'est la raison pour laquelle, sans doute, pour ce qui aurait dû être le troisième volume de son autobiographie, elle a opté pour une forme fictionnelle romanesque, romancée, pour sans doute aussi introduire cet élément élément de sarcasme, cet élément de distance ironique qui aurait été sans doute plus difficile à construire dans le cadre d'une autobiographie.
Alors elle a écrit, Doris Lessing, un article dans L'Infini, la revue de Philippe Solers, qui s'appelle « Écrire son autobiographie » ou « son » est mis entre guillemets, car elle entend relativiser les choses, parce que pour Doris Lessing, et c'est ce qu'elle explique dans cet article, on peut se réfléchir différemment à chacun des âges de notre vie. Donc il y a aussi dans sa démarche autobiographique une réflexion sur la permanence de l'être. Est-ce qu'on est le même? Est-ce qu'on est différent tout au long de notre vie?
Oui, c'est déjà clair dès les deux premiers volumes de son autobiographie. Pour elle, il n'y a pas de continuité de l'être à travers le temps. Ou du moins, ce qui se perpétue, continue à exister à travers le temps, c'est plus une mémoire littéraire, mémoire familiale, mémoire historique, mémoire collective, plus qu'un individu qui serait stable. Elle ne croit pas en la vérité stable de l'individu.
Et je voudrais lire un tout petit extrait de cet article. Si j'avais écrit mes mémoires à l'âge de 20 ans, ça aurait été un document combatif et belliqueux. À 30, confiant et optimiste. À 40, débordant de culpabilité et de justification. À 50, confus, plein de doutes. Mais à 60 et plus, autre chose est apparue. On commence à voir ses états antérieurs avec du recul. Et elle parle même de ce grand cadeau qu'apporte la vieillesse, c'est-à-dire le détachement et l'impersonnalité.
Oui, l'impersonnalité, qui est un concept qu'elle emprunte, sans vraiment le dire, aux modernistes, hein, avec cette idée que l'écrivain doit faire un travail, T.S. Eliot le dit, un travail d'épuisement du moi pour arriver à l'universel. Et donc c'est un travail d'épuisement du sujet unique, personnel, quasi romantique.
Hein, donc c'est-à-dire se raconter, c'est-à-dire
voilà, se raconter. Alors
se connaître.
Ce vers quoi tendra Lessing tout au long de sa carrière, y compris dans son autobiographie, c'est de décrire des processus, un moi comme un processus, un sujet en mouvement, un sujet qui ne cesse de se transformer, instable, et qui est déstabilisé constamment et qui s'invente au contact de l'histoire.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Catherine Bernard, nous allons marquer une pause dans cette émission consacrée à Doris Lessing pour aller voir ce qui s'écrit du côté des revues et aujourd'hui du côté de la revue Page des libraires. Georges Marc Habib, bonjour.
Bonjour Mathieu, vous écoutant parler de Doris Lessing, finalement je me dis que mes choix pour aujourd'hui sont plutôt pertinents puisque je vais vous parler d'un livre assez étonnant qui vient de sortir au Seuil qui s'appelle Notre Histoire, sous-titre que je retrouve Pingru et Metag. C'est traduit du chinois par François Dubois et là on a affaire à un monsieur de plus de 90 ans qui a pris sa plume et qui va nous raconter sa vie, son autobiographie. Et il va démarrer de sa petite enfance dans un petit village rural de la Chine de l'époque, donc avant la révolution culturelle, jusqu'en 2008, date à laquelle sa femme est morte d'une longue maladie. Et ce monsieur a pris la plume suite à cette perte pour nous raconter son histoire, mais pas que sa plume, il a aussi pris ses pinceaux parce qu'il accompagne ce texte de magnifiques dessins à l'aquarelle.
Alors est-ce qu'il se fait des portraits cubistes de lui-même comme
l'aurait fait Doris Lessing ? Alors pas du tout, on est plutôt dans le naïf, dans le très naïf, et c'est des magnifiques petits dessins très naïfs à l'aquarelle, très colorés, etc. Où il va nous illustrer toute sa vie, de sa petite enfance jusqu'à son arrivée à Shanghai avec sa femme, en passant par la révolution culturelle. Il a été prisonnier plus de 20 ans dans les geôles du pouvoir. Enfin bref, à travers sa vie, on va suivre aussi l'évolution de la Chine contemporaine. C'est un voyage extraordinaire et quand vous entendez parler d'autobiographie, là on peut se dire qu'effectivement, je pense que ce monsieur au summum de sa vie, on va dire, avait envie de partager avec d'autres ce que lui avait vécu.
Donc Notre histoire, Pingu et Maytag, édité au Seuil après la Chine. Là aussi, c'est très Doris Lessing. Vous allez nous parler de l'Afrique,
voilà. Georges-Marc. Et là aussi, pour un autre premier roman. Un premier roman édité chez Kalman Levy, d'une jeune auteure qui est ghanéenne américaine, qui s'appelle Ya Gyasi. Ça s'appelle No Home. Et alors là, c'est pareil, on va avoir une histoire sur 3 siècles d'une double descendance à travers 2 sœurs, 2 demi-sœurs qui ne sont jamais rencontrées, mais que nous, lecteurs, on va avoir sous les yeux. On démarre en 1770 avec le mariage de Essi avec un homme blanc, un gouverneur anglais chargé d'un fort au Ghana et qui fait commerce d'esclaves avec toutes les tribus environnantes du pays. Et là, il va tomber sur cette magnifique femme qui va marier, avec qui il va avoir un enfant. Et à partir de là, on va avoir toute la vie de la descendance au Ghana de cette famille-là. Et en parallèle, la vie de Efia qui, elle, a été emprisonné comme esclave et a traversé l'Atlantique. Et du coup, on va suivre la vie de sa descendance aux États-Unis. C'est étonnant de justesse, étonnant de pouvoir aussi, puisqu'elle embarque son lecteur à travers ces 2 histoires dans une histoire africaine douloureuse, mais dans laquelle les Africains eux-mêmes sont les acteurs de ce qu'ils ont vécu.
Il y a Gyasi No Home chez Kalman Levy et on rentre en France pour votre dernier choix, Georges-Marc.
Et je ne pouvais pas ne pas vous parler du dernier Tanguy Viel, un auteur que j'adore. Au plus profond de moi-même, je crois que c'est un des rares auteurs français avec lequel j'ai tout lu, parce que j'adore le ton avec lequel il nous embarque dans cette histoire. On est là sur son dernier livre qui s'appelle Article 353 du Code pénal, c'est toujours édité chez Minuit, et là on est en Bretagne, on va suivre un homme au chômage, il a perdu son boulot, il est avec son fils, il est seul, il est un peu triste et tout ça, et arrive un type avec un gros projet immobilier et il va faire plonger ce type-là avec ses économies dans son projet immobilier. Évidemment, ça se passe pas comme on l'entend. Le début du roman, c'est une sortie en bateau. Ce narrateur revient seul et on va le retrouver dans la pièce du juge d'instruction qui l'accuse évidemment de meurtre. Et là, il va nous raconter son histoire, toute l'histoire.
Je vois dans vos yeux, Catherine Bernard, que vous allez acheter ce livre si ce n'est déjà fait.
Ah oui, tout à fait. Oui. Je me précipitais à l'atelier pour acheter ça. Oui.
À l'atelier, donc l'atelier, la librairie de Georges-Marc, Habib, Métro, Jourdain, précipitez-vous. Merci Georges-Marc, à bientôt.
Merci.
C'est France Culture que vous écoutez. Vous êtes à bord de la Compagnie des auteurs. Catherine Bernard est mon invitée pour parler de l'écrivaine anglaise Doris Lessing. Et après nous être penchés sur la question de l'autobiographie dans ses livres, nous parlons maintenant de la question coloniale chez la lauréate du prix Nobel 2007. Une problématique au cœur de nombreux de ses livres, comme par exemple à ce moment du Carnet d'or, toujours lui, où le jeune communiste Paul se moque des clichés coloniaux.
Ce soir-là, Paul commença presque aussitôt l'un de ses jeux favoris qui consistait à parodier les clichés coloniaux jusqu'au point où la personne en cause comprenait qu'il se moquait d'elle. Milicia Sosia, votre cuisinier est avec vous depuis des années, bien sûr. Voulez-vous une cigarette? Non, merci, mon cher, je ne fume pas. Oui, c'est un bon garçon, je dois le dire, il a toujours été très fidèle. Il fait presque partie de la famille, j'imagine. Oui, je le considère comme tel. Il nous aime beaucoup, j'en suis sûre. Nous l'avons toujours bien traité. Peut-être pas comme un ami ou un fils, tout de même, c'était Vili. Car ce ne sont jamais que de grands enfants. Oui, c'est vrai. Ce sont exactement des enfants lorsqu'on les comprend. Ils aiment à être traités comme on traite un enfant, avec fermeté, mais équitablement. Monsieur Boothby et moi-même croyons à la nécessité de traiter les Noirs avec équité. Ce n'est que justice. Mais d'autre part, il ne faut pas non plus les laisser abuser, dit Paul, sinon ils perdent tout respect. Je suis heureuse de vous l'entendre dire, Paul. Parce qu'en général, vous, Les jeunes qui venaient d'Angleterre, vous avez toutes sortes d'idées fantaisistes sur les cafres. Mais c'est vrai, ils doivent savoir qu'il existe une ligne à ne jamais franchir. Et ainsi de suite interminablement. C'est seulement lorsque Paul déclara, assis dans sa position préférée, la chope levée, ses yeux bleus fixés sur elle d'un air engageant, et bien entendu des siècles d'évolution les séparent de nous, ce ne sont jamais que des babouins en fin de compte, qu'elle rougit et détourna les yeux. Babouin était devenu un mot trop cru pour la colonie, alors qu'il était encore acceptable 5 ans plus tôt, même dans la presse. De même que le mot cafre allait 10 ans plus tard connaître une évolution analogue. Madame Boothby ne pouvait pas croire qu'un jeune homme bien élevé, sorti d'un des meilleurs collèges d'Angleterre, emploierait le mot babouin. Elle nous souhaita bonne nuit, avec un long regard inquisiteur, douloureux et implorant en direction de Willy et de Paul. Puis nous quitta. Paul renversa la tête en arrière et se mit à rire. Ils sont incroyables, ils sont fantastiques, ils sont inénarrables.
Extrait du Carnet d'or, lu par Nathalie Nerval. Qu'est-ce qu'il vous inspire, cet extrait, Catherine Bernard ?
Il m'inspire avant tout, à nouveau, une grande admiration à l'égard de ce que Lessing fait du et avec le langage. C'est-à-dire qu'elle comprend très bien que le pouvoir impérial et la relation d'autorité passent par le langage. À la fin de cet extrait, lorsque tout à coup s'immisce un semblant de conscience de la longueur historique du discours et du fait que le discours, les mots ont une valeur, une portée qui change avec le temps et avec les contextes, ce qu'elle arrive à mettre en scène, à capter, c'est une fois de plus une conscience des rapports de force qui s'inscrivent dans la langue. Dans le pouvoir de la langue.
Et en même temps, de manière non manichéenne, m'a-t-il semblé à la lecture, parce que le personnage de Paul n'est pas tout entier un personnage positif, et même loin de là, la personne à qui il s'adresse est une personne qui souhaiterait, qui aimerait ardemment se rapprocher de ce groupe de jeunes gens dont fait partie Paul. Donc il y a du pouvoir un petit peu de tous les côtés, et Doris Lessing choisit tous les camps ou n'en choisit aucun.
Tout à fait. De toute façon, l'œuvre de Lessing est une œuvre qui est tout sauf manichéenne, qui est une œuvre traversée par l'ambiguïté, par la conscience, une fois encore, que notre rapport au monde est profondément ambigu, ambivalent, complexe, et y compris en ce qui concerne la situation coloniale. Tout est complexe. Rien n'est simple. Hein. Rien n'est simple, mais il y a toujours chez elle, dans son rapport à la mémoire impériale, il y a toujours cette conviction que l'entreprise impériale est bâtie sur une sorte de vision totalisante du monde, dans laquelle évidemment anthropocentrisme, ethnocentrisme, rapport à la langue s'épousent pour bâtir un ordre.
Donc, comme si la Grande-Bretagne souhaitait se projeter telle qu'elle est dans sa métropole, à tous les coins du monde, mais sans vraiment y parvenir, c'est ça le constat que fait Doris Lessing ?
Oui, tout à fait. Sans y parvenir, et précisément, c'est une fois de plus, cette conscience divisée qui va beaucoup l'intéresser et qui, dès son premier roman, The Grass is Singing, Vaincu par la brousse, va vraiment occuper le devant de la scène de sa fiction et de sa conscience. C'est-à-dire que dès son premier texte, et c'est ça qui, c'est vraiment sans doute le sujet central de son œuvre, elle ne va cesser d'écrire sur les relations de domination contrariées, impossibles, douloureuses, bizarrement.
De la part De ceux qui cherchent à dominer
voilà,
aussi.
Voilà, de la part de ceux qui cherchent à dominer. Hein. C'est-à-dire que, en un sens, on pourrait dire que c'est vraiment une pionnière en cela. Hein. Dès le début de sa carrière, elle va mener une forme de diagnostic de l'Empire qui anticipe déjà sur celui que fera Coetzee beaucoup plus tard. Mm-hmm. Je pense à un roman comme Disgrace, hein, peut-être son plus grand texte, dans lequel il va au-delà, effectivement, du binarisme historique, confortable et satisfaisant, pour finalement. Non pas évidemment mettre tout le monde dos à dos, hein,
non,
bien évidemment.
Ne pas excuser non plus, non, et sûr, ça, Doris hein, Lessing ne le fait
mais,
pas.
Mais pour essayer, pour tenter de mettre au jour les lignes de clivage, les lignes de tension, et le caractère, et en fait le caractère impossible du projet impérial, du caractère mortifère d'entrée de jeu du projet impérial, et c'est de cela aussi qu'il est question dans The Grass is Singing.
Mais alors, est-ce qu'il y a aussi de la culpabilité, peut-être pas à la fin de sa vie, mais au début de sa vie, chez Doris Lessing, qui quand même se rend compte que son père, par exemple, fermier en Afrique, fait œuvre de spoliation quand même sur les terres des Noirs qui vivent ici. Donc, est-ce qu'il y a pour vous de la culpabilité chez Doris Lessing dans cette question coloniale ?
Oui, nécessairement, hein, bien sûr. Mais en même temps, je pense que la relation de culpabilité qu'elle entretient avec le projet impérial est lui-même très complexe, parce que elle finit presque dans son autobiographie par dépeindre son père comme une victime collatérale en quelque sorte de l'Empire. Hein. Non pas victime au même titre que effectivement les colonisés, les subalternes, hein, comme dirait Spivak, bien évidemment. Hein, mais en quelque sorte, elle décrit tout au long de sa vie, elle aura décrit son père jusqu'à la fin dans son dernier texte, comme précisément une sorte de, comme un être manipulé en fait par le projet impérial, hein, à qui on fait croire qu'il pourra se réinventer sur cette terre d'Afrique, hein, quand il
et qu'on a envoyé quand même là-bas.
Qu'on a envoyé là-bas, bien sûr. Hein, le couple va à l'exposition coloniale de 1924, qui est aussi d'ailleurs fait l'objet d'un essai très drôle de Virginia Woolf, un essai sarcastique éminemment drôle, et qui croit évidemment dans les grands récits effectivement hein, de l'Empire qui sont véhiculés par des institutions comme l'exposition coloniale, qui part donc en Rhodésie. Zimbabwe en 25 et qui va y connaître la souffrance et la désillusion hein, avant toute chose simplement parce qu'il est aussi incapable physiquement de faire face.
Le matin, je me réveillais avec la lumière du jour, sentant la chaleur du soleil sur mon visage. Je faisais la chasse aux araignées et aux scarabées accrochés aux tulles, puis je me levais d'un bond pour le nouer en l'air. Je me laissais retomber sur le dos, bras et jambes écartés, repoussant les draps, respirant toutes les odeurs délicieuses de la pièce. D'abord, les différentes parties de mon corps, au parfum familier et distinct. Le chaume dégageait une forte odeur d'humidité ou de paille sèche, selon le temps. La créosote, dont on badigeonnait les chevrons, était fortement imprégnée de goudron, comme le savon. Le lino, qui se trouvait déjà par endroits, sentait légèrement la graisse, comme la toile cirée sur la console de toilette. Mes chaussures avaient une odeur de peau de bête, comme les carrossises. Je refusais toujours d'en avoir un sur mon lit. Il était encore trop proche de l'animal tué. Sa puanteur grossière me faisait penser à Mrs. Scott et je ne voulais plus jamais songer à ce lieu.
Un extrait de Vaincu par la brousse, le premier roman de Doris Lessing, lu par Françoise Lebrun. Là encore, on retrouve l'autobiographie puisque elle évoque évidemment son enfance, ses parents. Vaincu par la brousse, qui raconte l'histoire de Mary, une jeune citadine blanche, qui épouse Dick, petit fermier de Rhodésie, et avec qui elle s'installe dans un petit village. Je ne sais pas si vous avez relu ce roman récemment, si vous l'avez encore en tête, Catherine Bernard, mais qu'est-ce qu'il dit pour vous de ce regard que Doris Lessing porte sur cette Afrique colonisée, et aussi sur les petits blancs qu'on envoie donc en Afrique pour peupler cet empire britannique ?
Ce qui m'inspire, c'est en quelque sorte est résumé par les deux titres anglais et français. Qui n'ont rien à voir, mais qui chacun, évidemment, disent quelque chose du texte et plus largement de la relation de Lessing à sa propre enfance en Afrique. D'un côté, The Grass is Singing, l'herbe chante, ouais. En quelque sorte, hein, et on l'a bien entendu dans l'extrait que vous aviez choisi, c'est-à-dire cet hymne à la nature qu'on peut presque considérer comme un peu primitiviste ou nativiste, hein, ce qui peut paraître un peu dérangeant, c'est-à-dire que de même que tout à l'heure, on réfléchissait aux clichés hein, qui accompagnent l'entreprise coloniale, on pourrait considérer que cette sorte d'hymne à la nature africaine, avec ses odeurs, sa chaleur, etc., constitue quasiment en fait une sorte de peinture un peu cliché de l'Afrique, avec sa puissance en quelque sorte tellurique. Hein,
donc oui, d'un mais côté, après tout, ça peut correspondre aussi à la réalité de cette petite fille qui vivait là-bas.
Tout à fait, tout à fait. Mais avec, vous avez entendu là, ce sens du détail absolument extraordinaire hein, dans les odeurs, dans le contact avec la toile cirée par exemple, hein, c'est extraordinaire. Donc d'un côté effectivement cette sorte d'hymne hein, quasiment primitiviste à la nature, hein, l'herbe chante, hein, et de l'autre côté vaincu par la brousse, c'est-à-dire ce sentiment qui est central en tout cas dans ce texte et dans le premier volume de son autobiographie, ce sentiment que jamais en quelque sorte les colons les Européens ne comprendront quoi que ce soit à l'Afrique, d'une part, et seront de toute façon condamnés à être dominés, vaincus, en fait, y compris par l'entreprise coloniale qui est vouée à l'échec.
Alors pourquoi, selon vous, la traduction française a-t-elle choisi cet aspect radicalement différent ? Parce qu'on a l'impression même d'une trahison, finalement, dans la traduction de ce titre.
Oui, mais en un sens, on retrouve une thématique qu'on va aussi rencontrer chez Gordimer, hein, chez les romanciers d'Afrique du Sud, c'est-à-dire le sentiment de l'échec, le sentiment de l'abandon, le sentiment de l'impuissance, en fait, face à la fois à un continent qui reste ce sort de continent opaque en quelque sorte, hein, c'est très conradien en un sens, hein, de ce point de vue-là, et d'autre part ce sentiment que c'est l'Empire lui-même qui trahit en fait, mais qui trahit d'entrée de jeu, c'est-à-dire qui vend du rêve. Un rêve qui se transforme en cauchemar.
Je voudrais terminer cette émission, Catherine Bernard, en revenant à ce texte de L'Infini dont on parlait tout à l'heure, la revue L'Infini, dans lequel Doris Lessing a publié ce texte, écrire son autobiographie, parce qu'il commençait, ou elle commençait plutôt, en citant Goethe, qui, à la fin de sa vie, avait dit qu'il venait à peine d'apprendre à lire. Et il voulait dire par là, je crois qu'il avait appris une certaine passivité dans la lecture. Et Doris Lessing reprend cette idée qu'il faut lire de manière passive. Comment est-ce que vous entendez cette notion-là ?
C'est une belle idée et qui est un peu contre-intuitive parce qu'on a toujours cette idée qu'au contraire la lecture, pour être une lecture juste, doit être une lecture active. Mais l'extrait qu'on entendait à l'instant de Vaincu par la brousse le dit bien, c'est-à-dire que c'est par un effet d'immersion empathique quasiment, hein, dans la présence phénoménologique des choses, que l'on peut faire l'expérience précisément de la rencontre avec le monde, de la rencontre avec cette épaisseur, cette densité qu'a la réalité. Et avant tout, une réalité qui passe par l'expérience. Et bizarrement, je pense que cette passivité-là, qu'elle pointe et vers laquelle elle, bizarrement, hein, elle va travailler à atteindre un état de passivité, c'est aussi
presque
un état
de méditation.
Tout à fait, c'est presque un état de, en quelque sorte, on ne va pas dire d'osmose, hein, mais de rencontre en fait, hein, avec sa propre expérience. C'est l'expérience d'une écoute aussi. Ça peut être une écoute, je dirais pas flottante, mais une écoute en quelque sorte passive qui permet précisément à l'expérience d'arriver à la conscience en quelque sorte.
Et c'est peut-être aussi dans le cadre de Doris Lessing apprendre à ne pas lire avec les théories que l'on a forcément en nous-mêmes, apprendre à lire sans cet écran qu'elle aurait appelé le politiquement correct.
Tout à fait. Il faut apprendre à désapprendre à lire en quelque sorte. Il faut retrouver, on parlait des cubistes tout à l'heure, hein, c'est ce que dit Picasso aussi quand il dit qu'il aura passé sa vie à apprendre à peindre comme un enfant. Et en quelque sorte, c'est ce qu'elle fait aussi, c'est-à-dire se défaire petit à petit, non pas des structures, mais se défaire de ce qui serait de l'ordre de la structure trop coercitive pour être à l'écoute de l'expérience.
Merci beaucoup Catherine Bernard d'être venue nous parler de Doris Lessing. Doris Lessing, c'est notre sujet dans la compagnie des auteurs jusqu'à demain. Demain, nous ferons le portrait de l'écrivaine en humaniste avec Anne-Laure Brevet qui a édité à la Pochothèque Le Carnet d'or et autres romans. Elle viendra nous parler non seulement de ce grand livre, mais aussi d'autres livres moins célèbres comme La terroriste et Journal d'une voisine. Mais tout de suite, un petit peu de poésie avec Jacques Bonnafé. Il lit toute cette semaine des textes intitulés « Courrier et papillon ».
Bonjour, sur la table, au courrier, les revues. La revue par exemple, FPM, nous continuons avec le festival permanent des mots. C'est une revue de la parole contemporaine. Le numéro 9, et nous tombons sur « Poème ». En résistance, 13-26 novembre 2015, par Muriel Compère de Marcy. Ah tiens, le poème commence par deux ressentis du poème qui me laissent penser que c'est peut-être un extrait. Et alors je me dis, qu'est-ce que ça raconte? Un homme, un mur, un homme qui pleure, son enfant, une image universelle ou vue tant de fois dans l'actualité. Un homme effondré contre un mur. Un homme effondré comme un mur, frappait, frappe, frappe, contre un mur, frappait, frappe comme contre un mur, cherchant, attendant, raison perdant, un signe de sa fille, un signe de survie, la colère d'un homme brandi en étendard, la colère d'un homme effondré aujourd'hui des murs, sa rage déborde. Déborde l'impuissance des grands, dirigeants impuissants, impuissants à garantir du néant, bâtir hors du néant, l'empire d'un enfant, de son enfant. Un père effondré, s'écroulant, s'effondrant. Qu'est-ce qu'une vie, un souffle, né du ventre de la mer, fruit immense de la terre. Une vie, une seule, pour ces grands dirigeants, un chiffre, un chiffre parmi les chiffres, once insensé de l'heure statistique, le jetant au néant, l'humain au néant, au fronton de la haine, perverse barbarie, un homme contre un mur, un homme comme un mur dans la nuit d'un Paris cerbère, donné aux hyènes, livré aux monstres de l'enfer, face au mur d'impuissance, dirigeant impuissant, guide ne sachant protéger un empire, diriger leur empire, laissant perdre une enfant, l'empire d'une enfant, au nom de nos pères, au nom de nos mères, tous frères debout, face à leur discours impuissant. Discours impuissant, la vie, notre vie contre l'horreur, la perte d'une enfant. L'innommable, la plainte d'un père nous revient du souffle de la terre, du souffle du ventre de nos mères au cœur de la colère. Autre poème dans le festival permanent des mots. Elle, elle ne dit rien. Elle tait ses joies, ses douleurs. Elle ne pleure plus. Elle continue de prier les matins où l'oiseau qui sommeille sur la plus haute pierre lui révèle son amour. Elle croit qu'il la protège, pourtant ses ailes lui griffent le visage d'une terreur indicible. Obstinément, elle fuit les ombres. Il y a ce léger vent qui souffle sous son jupon où le désir s'est éteint. Elle se souvient d'un homme et puis d'un autre et un autre. Elle aimera sûrement encore lorsque le silence ne lui volera plus son corps. Elle pourra caresser ses seins et son sexe, amener sa main à lui. Elle n'aura plus peur. Humaine. Si nos vies étaient liées l'une à l'autre, j'aimerais que l'on ne s'attarde plus sur le mot « amour ». C'est comme la joie qui précède la douleur, le cri avant le silence, la déconvenue de l'âme qui demande sa part manquante.
Merci Jacques Bonafé pour ces extraits de textes poétiques.